Bonjour à tous, mon nom c'est Marie-Michelle Funk, je suis éducatrice à l'enfance en milieu familial. Je suis très contente de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast « De la broue dans le toupette », un podcast où je regarde des situations challengeantes avec les enfants, où je partage des trucs et mon expérience par rapport à ça. Je vous présente aussi des perles en milieu familial. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mon invité n'a pas du tout rapport avec le monde de l'éducation. C'est mon frère Pierre-Luc. Sûrement que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui fait de la télé, c'est un artiste incroyable, un communicateur hors pair. J'ai vraiment hâte de vous présenter notre entrevue, mais avant, on y va pour une question du public qui nous vient aujourd'hui de Simon. On est allé souper chez mes parents en fin de semaine et ça a été tellement dur avec les enfants. Ils écoutaient rien, ils couraient partout, j'ai perdu le contrôle. Ça a été le bordel, mes parents ont levé le ton après les enfants, ils étaient pas bien, moi non plus. Je sais pas comment défendre mes valeurs bienveillantes avec ma famille, qui ont d'autres façons de faire, d'autres idées. Donc, premièrement, merci beaucoup, Simon, pour la question. Je t'envoie plein d'amour. C'est vraiment pas facile de vivre ça. Des enfants qui écoutent rien devant nos parents, il y a comme un côté honte qui rentre à ça, puis c'est vraiment pas facile à vivre. Il y a deux choses qui m'interpellent là-dedans. Première chose, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on n'encadre pas. Je pense que c'est important de faire la différence. C'est une conception erronée qui revient souvent que la parentalité bienveillante, positive, proximale, c'est des postures parentales où est-ce qu'on met pas beaucoup de limites. Je me considère vraiment comme une éducatrice et une maman bienveillante, mais il y a beaucoup de limites dans ma vie. Les enfants ont beaucoup de consignes, il y a des interdits, j'encadre beaucoup. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec la parentalité bienveillante. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi, loin de là. Donc, écoute, peut-être que c'est un défi pour toi à tous les jours, à la maison aussi, ou peut-être que c'est juste en public que c'est dur pour toi parce que ça arrive là, qu'en public, on ressent de la gêne, on est plus mal à l'aise, on voudrait que les enfants soient parfaits, puis on veut pas comme mettre nos limites avec nos enfants. Par contre, les enfants le sentent ça. Si vous avez une posture différente à la maison qu'au centre d'achat, ou bien à l'épicerie, ou bien au parc, si votre posture est différente, l'enfant, il le sait, puis c'est un peu insécurisant pour lui d'avoir cet élastique beaucoup trop long, là, la laisse beaucoup trop lousse. Donc, je pense que c'est important de faire la différence, c'est quelque chose que je parle souvent, entre les demandes et les limites. Donc, par exemple, mon fils saute sur le sofa de grand-papa. Grand-papa dit non. Là, je peux le demander, là, 75 fois. Tu descends du sofa. Descends. Non, non, descends. Non, 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 descends. Viens-t'en. Non, non, viens-t'en. Viens me voir. Viens me voir. Tu veux-tu une crème glacée? Regarde, je vais te donner une crème glacée. Oh non, je veux pas que tu sautes sur le sofa. Viens-t'en. Tout ça, ça reste des demandes. Qu'on soit bienveillant ou qu'on soit plus ferme. Tu sais, ça arrive qu'on est comme, là, tu descends. D'abord, il n'y aura pas de PlayStation. C'est ça que tu veux? Tu veux que je t'enlève la PlayStation? Tout ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, reste des demandes. Quand je vais aller vers la limite, je vais me lever. Parce qu'une limite, c'est quelque chose que moi, je mets en place. C'est quelque chose sur lequel moi, j'ai du contrôle. Parce que je peux pas m'attendre à ce que miraculeusement, mon fils décide de prendre la bonne décision puis décide d'écouter la consigne. J'ai du contrôle sur moi. Donc, la limite, ça va être que je vais me lever. Est-ce que tu descends ou je te descends? Il prend son choix. S'il choisit de rester là, je vais le prendre et je vais le descendre. Je vais m'asseoir sur ce sofa-là pour assurer qu'il va pas retourner puis que ça va pas être tout le temps la roue, là. S'il remonte, je le descends. Il remonte, je le descends. Si c'est trop, ben, je pense qu'on va aller prendre une pause dans la chambre. Là, on va aller dans la chambre, on va fermer la porte, puis on reviendra quand on sera prêt à écouter les conseils. Après ça, si c'est une situation qui revient souvent, que les enfants ont l'habitude d'avoir l'élastique long de même, qui sont un peu insécures, que les deux enfants embarquent dans, ou les trois embarquent dans l'espèce de manège de folie, ben, je vais être moins lousse sur mon élastique, c'est-à-dire dès la première fois, je vais aller le descendre. Moi, j'ai demandé qu'on descende. J'ai entendu la consigne de grand-papa. Je les amène peut-être dans la chambre directement. On va ressortir quand on va se sentir mieux. Et malheureusement, si les enfants continuent puis se sentent complètement désorganisés, je vais choisir de quitter. Parce que ce cercle-là n'est pas confortable pour nous, n'est pas confortable pour grand-papa, grand-maman non plus, mais n'est pas confortable pour les enfants non plus. Ils ne sont pas bien. ils se désorganisent parce qu'ils manquent de repères, le cadre est pas assez solide. Quand ils ont ces comportements-là, c'est pas vrai qu'ils ont du plaisir, là. Ce qu'il faut voir dans leur comportement, ils sont pas en contrôle de leurs mains, ils sont pas en contrôle de leurs jambes, ils sont pas bien. Ils ont besoin de nous pour les empêcher de probablement se ridiculiser, de peut-être briser leur relation avec les grands-parents, de briser le matériel. C'est pas ça qu'ils souhaitent. Ils souhaitent pas, ils ont pas envie de briser le sofa, ils ont pas envie de se faire chicaner par grand-papa. Ils ont besoin de nous pour mettre le cadre et les encadrer et s'assurer que ça se passe bien. Donc, première des choses, ils ont besoin de nous pour show up. Ils ont besoin de nous qu'on se présente au bâton. On est là, on fait ce qu'il faut. Je suis là pour m'occuper de toi. Ensuite, le deuxième volet de la question, comment on fait respecter nos valeurs, puis comment on trouve la limite entre les conseils des gens, les interventions des gens auprès de nos enfants, comment on s'assure que ça reste dans nos valeurs? Dans le cas ici, nos valeurs bienveillantes. Moi, je suis une grande fan de grosses conversations directes, authentiques, qui peuvent faire mal, de nos attentes, puis de comment on se sent par rapport à ça. Oui, c'est pas toujours joli, c'est pas toujours le fun à avoir, ça demande de la pratique ça aussi. As-tu deux minutes? Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on parle. Là, il est arrivé ça la dernière fois, moi je me suis pas sentie à l'aise. Je vais te demander de... Moi, mes attentes par rapport à ta relation avec ton petit-fils, c'est de l'amour inconditionnel. L'encadrement, je m'en occupe. Ou peut-être que vous, votre position, c'est plus... Je m'attends à ce que vous interveniez dans le même sens que moi. Peut-être que vous, vos attentes, c'est vraiment qu'ils se retirent puis qu'ils s'en mêlent pas. Établissez premièrement vos attentes puis communiquez-les. Les gens peuvent pas savoir exactement ce que vous souhaitez puis ils font toujours de leur mieux. Ensuite, je pense que dans notre non-verbal, il y a beaucoup d'invitations qui se passent. C'est-à-dire si notre non-verbal est comme complètement dépassé, notre non-verbal est comme des soupirs, des yeux à grand-maman, des... Mon Dieu, ils écoutent rien, ces enfants-là. Ça invite au conseil, ça invite au, je vais aller te sauver, tu sais. Surtout pour un parent qui voit sa fille ou son garçon struggle, avoir de la difficulté, trouver ça difficile, peut-être s'approcher d'une dépression, peut-être aller dans un burn-out. Il y a un sentiment de sauveur, là, qui arrive. Puis, c'est pas avec tout le monde qu'on a envie d'ouvrir cette porte-là. Fait qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dégage. Quand je fais une intervention auprès de mon enfant, devant du public, on va dire, c'est important comment je me comporte, puis c'est important que je dégage la confiance que je veux dégager. Ça dépend. Si je suis vraiment dépassée, là, ça arrive là, que je crie après mon enfant. Là, mon non-verbal, il dit « Non, Michel a besoin d'aide », puis c'est vrai que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que ma mère, ma sœur, mon chum viennent m'arrêter pour dire « Va prendre une pause, là, t'es plus bien. » Puis ça, j'invite tout le monde autour de moi à m'arrêter quand je suis en train de crier et que je suis plus bien. Par contre, c'est pas ça la majorité du temps. Ça arrive une fois de temps en temps. Le reste du temps, quand je regarde mon intervention après, je sens que j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux. J'ai fait de mon mieux. Peut-être qu'il y a des choses que je vais faire différemment, mais je suis fière de mon intervention. J'ai tenu mon bout. J'ai pas utilisé de violence. Tu sais, j'ai été dans ma confiance. C'est une posture qui est dure à atteindre. Ça m'a pris des années. Ça prend du temps. C'est transformateur. Tous les parents le passent par cette espèce de... Surtout quand ton premier est différent de ton deuxième ou le contraire. Tu te cherches un peu puis t'es comme, mon premier, je pouvais le laisser puis il allait jamais faire ça. Mais avec ton deuxième, la posture est un petit peu plus rigide parce que lui, il a besoin de ça. Fait que c'est des choses qui se font beaucoup par essai-erreur. Tu te découvres comme parent, comme intervenant. Comment je mets mes limites, comment je m'adresse à mon enfant, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, tout ça. Bref, une fois qu'on a plus de confiance, je pense pas qu'on peut avoir à un moment donné la confiance absolue, là, personne là, mais une fois qu'on a cette confiance-là, je pense qu'on invite moins aux conseils puis aux parents qui viennent intervenir à notre place ou qui sentent, tu sais, ils sont pas bien, là, comme, oh, là, ça n'a pas de bon sens, là, faut que j'aille faire quelque chose. Fait que là, ils vont aller crier ou ils vont aller, parce que le laxisme, le laisser-faire, va un peu inviter à ça, parce que des gens qui sont pas à l'aise avec le laisser-faire vont souvent aller plus dans l'autoritarisme, c'est-à-dire aller dans les violences éducatives, crier, isoler, enlever là, toutes sortes de pratiques. Donc, ce que je veux faire, c'est montrer aux gens autour de moi que je suis en contrôle, même si c'est des choses que j'ai déjà dit là, dans une grosse crise violente avec public là, devant ma famille. C'est des choses que j'ai déjà dit. Je suis là, je suis en contrôle, il n'y a pas de problème, je m'occupe de mon enfant. C'est des choses que j'ai déjà nommées. Sentant que, bon, je sais que ce n'est pas tous les enfants qui font des crises violentes, mais c'est déstabilisant pour la famille d'être témoin d'une crise violente, de se demander qu'est-ce qu'il y a qui cloche avec cet enfant-là, pourquoi il fait ça. T'sais, c'est difficile d'être témoin. Mais je pense que notre posture d'intervenant confiant adoucit un peu ça. Dans le cas d'une crise violente, là, après la crise, là, après le, je sais pas trop combien de temps ça va durer, là, mais après le 1h30 à gérer ou le 15 minutes, je vais remonter puis aller voir les gens qui ont été témoins. Est-ce que ça va? As-tu besoin qu'on discute? As-tu besoin que je te parle plus de mes interventions, que je t'explique un peu le développement de l'enfant normal ou, dans mon cas, le développement de l'enfant neurodivergent, les caractéristiques de son TDAH, de son hypersensibilité? Je peux te parler de ça, puis je peux t'expliquer pourquoi ça arrive. Toutes ces conversations-là sont pas devant l'enfant. Je suis pas à l'aise qu'il soit témoin de tout ça, qu'il sente un peu la détresse, mais le stress que ça fait vivre aux adultes. Il y a assez à gérer avec ces grosses tempêtes émotionnelles. Il y a assez à gérer à essayer de même se contenir. Je pense pas que lui, il souhaite faire une crise. Là. Jamais que je pense qu'un enfant fait une crise intentionnellement. Là. Mon enfant fait des crises parce qu'il est en grande difficulté puis il n'est pas capable de gérer l'intérieur là, qui bouillonne très fort. Donc, je fais pas ces discussions-là devant mon enfant. Ça va arriver que je vais les faire au téléphone, que je vais aller, par exemple, chez un membre de ma famille ou de ma belle-famille, toute seule, sans mon enfant, parce que je sens qu'on a besoin de discuter. C'est pas du small talk, là. Tu sais, c'est lourd, c'est dur, mais ça fait partie des nécessités quand on a un enfant à défi ou pas. Tu sais, il y a des enfants qui font des crises là à 2 ans, là, le terrible two, là, il y a la majorité des enfants font des crises, même s'ils sont neurotypiques. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'avoir ces talks-là, puis de crever un peu l'abcès, puis le non-dit, puis toute l'espèce de charge émotionnelle qui vient avec ça. Je vais juste regarder un peu mes notes, être sûre que j'ai dit tout ce que je veux dire. Ouais, c'est bon. J'ai tout dit, tout vidé mon sac par rapport à la famille. Je vous envoie vers l'entrevue que j'ai faite avec mon frère. C'est une personne que j'adore. On est vraiment une famille si serrée où est-ce qu'on parle des vraies choses. Puis souvent, on se parle dans le casse. Là, t'sais, on a une famille où est-ce qu'on parle fort, puis on est très émotif. Mais on s'adore, puis je trouvais ça intéressant d'avoir son point de vue de membre de la famille. Lui, c'est un oncle, puis tout le fait que lui aussi a un TDAH. Je trouvais ça super intéressant de parler avec lui de c'est quoi la posture d'un oncle dans cette dynamique-là. Puis, ben c'est ça. Je voulais vous faire bénéficier de son expérience, puis je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Luc, mon frère, je suis vraiment contente
Hello.
De te venir. Comment tu
vas? Ben oui, moi aussi, je suis content d'être là. Mais là, je suis gêné parce que là, tu reçois juste des gens experts en éducation et moi.
Mais toi, t'es l'expert communication, que nous, on est moins.
Bon, regarde, vas-tu, je vais essayer que ça m'aide un peu là, dans ce podcast.
Fait que... Toi, je voulais juste mettre en table, là, dans le fond, t'es mon frère, donc t'es l'oncle de mes 2 enfants. C'est les premiers enfants de notre famille, hein. C'est mm-hmm. notre première expérience. Arnaud, c'est notre aîné, t'sais, toute famille confondue. Fait que c'est vraiment nos premières expériences puis nos premiers pas de famille avec enfants.
Ah oui, effectivement. Moi, je suis autant c'est excitant, tu sais, autant j'étais excité d'être un oncle, tu sais, autant j'avais pas réalisé en fait à quel point ça allait être un apprentissage aussi d'être un tu sais, mettons, toute ma vie, j'ai été un frère, toute ma vie, j'ai été un fils, mais pas toute ma vie, j'ai été un oncle, tu sais. Fait que là, c'est comme, il y a aussi un apprentissage, tu sais, à être un nouveau membre de la famille pour quelqu'un, puis qui est un super beau rôle aussi, qui est un rôle que j'adore, mais qui est un rôle qui vient quand même avec beaucoup de en tout cas, pour ma part, tu sais, beaucoup de peur de se tromper, tu sais. Surtout quand, là, moi, j'ai comme un... J'ai quelqu'un dans ma famille qui est toi, qui, mettons, connaît l'éducation sur le bout de ses doigts. Fait que, tu sais, comme, la peur de faire quelque chose de pas correct aussi, comme, et là, tu te dis, il y a tellement quelqu'un qui connaît plus ça que moi, tu sais, que comment, moi, je me place là-dedans, tu sais.
Mais je pense que, tu sais, on a tellement des discussions honnêtes tout le temps. On est vraiment du monde de même, là, transparent. Ah non, c'est quoi que tu dis souvent? Intransigeant.
Ouais, ben je pense que ça c'est malheureusement de nature de notre famille, mais c'est ça, tu sais, puis je pense que en tout cas de ce que j'avais envie qu'on parle, tu sais, c'est ça a été la clé pour nous autres. Je pense que ça peut être la clé dans beaucoup de familles, tu sais, puis c'est de pas avoir peur de parler, de pas avoir peur de poser des questions, de pas avoir peur de s'assurer. Tu sais, puis en fait, c'est de pas tout le temps juste faire confiance à nos réflexes même, tu sais.
Effectivement. La transparence, je pense que c'est vraiment une belle posture dans ces situations-là.
Mm-hmm.
Fait que je voulais aussi mettre la table, là, s'il y a des gens qui n'ont pas vu les autres épisodes, que dans le fond, mon fils a un TDAH et de l'hypersensibilité. Donc, c'est un enfant à défi qui vit des grandes émotions, des grandes crises, puis qui peut être assez intense à vivre souvent. Fait que on l'aime d'amour, ça change pas l'amour qu'on porte à cet enfant-là. Il est incroyable dans ses forces, puis on l'aime vraiment, mais ça amène des défis dans notre vie de famille, puis des conversations, comme tu dis, qui sont nécessaires pour bien s'entendre.
Ouais, exact. Puis tu sais, j'avais envie de partager aussi un peu de notre histoire, parce que je pense que ça peut être bénéfique pour beaucoup de gens, tu sais. Il y a beaucoup de gens, je pense que c'est une situation tellement commune, mais qu'on parle pas si souvent que ça, tu sais, mettons, justement, mon neveu, là, tu sais, qui fait des crises, puis tout ça, tu sais, puis oui, c'est un enfant avec le TDAH, puis c'est un enfant avec des filles, mais je veux dire, tous les enfants font des crises, là, tu sais, je veux dire, c'est pas le seul enfant sur Terre à en faire, tu sais.
Mm-hmm.
Puis au début, on dirait que ma relation avec les crises, c'était de m'enlever, tu sais. T'es comme, oh, ok, ça, c'est comme une trop grande émotion pour moi. Je suis pas capable de la gérer. Je vais laisser Marie-Mi faire ce qu'elle veut faire avec ça, tu sais. Puis j'ai réalisé que c'est pas le bon réflexe. C'est comme pas abandonner. Parce que, tu sais, je pense que c'est moins pire que ça. C'est juste comme de la naïveté de penser que je suis pas la bonne personne pour faire, puis j'ai peur de mal agir.
Ça dépend des relations, je dirais, tu sais, parce que quelqu'un qui a pas toute cet intérêt que t'as à comprendre puis à bien faire les choses, peut-être que le parent va souhaiter justement un retrait. Peut-être qu'il va souhaiter une distance. Nous, je pense, dans notre dynamique familiale, on est très, très impliqués, très, très présents. Tu sais, on passe des 4-5 jours ensemble au chalet. Tu sais, on est très, très proches. Fait que dans cette dynamique-là, effectivement, moi, j'en suis venue à nommer que j'avais envie et besoin que pas juste toi, là, que ma soeur, ma mère, mon père s'impliquent plus. Avec un genre de coaching, là, parce que je sentais que je voulais pas qu'il se passe n'importe quoi non plus. Mais effectivement, c'est pas, tu sais, je pense qu'il y a pas de one size fits all. Il y a chaque dynamique familiale, chaque personne comment elle vit. Là. C'est ça. T'as été témoin de grosses crises violentes. C'était sûrement la première fois que tu vivais ça. C'est comment d'être témoin de ces grosses crises-là? Je me souviens d'une crise à Noël, là, une crise de, tu sais, de surcharge, là, une décharge
sexuelle
que tu avais été témoin.
C'est vraiment spécial parce que, tu sais, autant que c'est ça, c'est un être que t'aimes tellement, puis tout le niveau de l'apprentissage aussi, puis de, tu sais, quand t'as un enfant, tu veux y apprendre que ça se fait pas, ça, c'est pas des comportements qui sont acceptables. Je permets pas que tu cries ou que tu frappes ou que tu mords, tu sais. Fait qu'il y a tout le côté où, genre, on doit lui apprendre des choses. Puis il y a tout le côté, tu sais, où comme moi, mettons, s'il s'élance pour, mettons, te frapper ou te lancer un jouet, tu sais, je sais que le bon réflexe, c'est peut-être pas de, comme, lever le ton puis de l'arrêter, mais moi, mettons, mon instinct, c'est ça qu'il me dit, tu sais. Fait que comme, il y a toujours une partie de mon instinct qui est dans la protection, puis aussi dû au fait de comment j'ai été élevé aussi, là, tu sais, où on chicane, on arrête, on veut pas surprendre l'enfant, là, tu sais, mais comme s'imposer, tu sais, dans cette situation-là.
C'était vraiment pas juste dans notre famille, là. C'est très typique des années 90 dans laquelle nous autres, on était, qui était un encadrement très « renvale tes émotions ». Laisse pas voir à personne les tempêtes à l'intérieur de toi. Alors que maintenant, en 2020, les études ont montré qu'il y a beaucoup plus de transparence et vraiment plus positif pour l'enfant. Puis, en même temps, on peut voir les effets que ça a sur nous. Tu sais, toi dans l'anxiété de performance, moi dans l'anxiété plus généralisée, on a des petites choses qui sont arrivées de ce genre de mode des années 90 de beaucoup stopper les émotions puis de pas permettre aux enfants de les vivre. Parce que toi aussi, ouais, t'as un TDAH. Toi aussi, t'as été un enfant à défi.
Ouais, 100%, tu sais. Puis souvent, c'est ça que je réalise, tu sais, quand tu dis que c'est dur pour Arnaud même, tu sais, qu'on a peur souvent de, faut pas lui faire sentir qu'il est pas correct, tu sais, d'être comme ça, ou qu'il est pas moins aimé parce que c'est un enfant à défi. Tu sais, moi, c'est comme, ça vient toucher directement au milieu de la cible, tu sais, parce que c'est sûr que quand t'es un enfant à défi, tu passes beaucoup, la majorité de ton enfance à te faire chicaner, à te faire reprocher, à te faire... Puis tu te sens tellement impuissant face au changement que tu peux faire, parce que, tu sais, il y a une partie de ça que tu contrôles pas, puis qui est plus forte que ton raisonnement à toi quand t'es un enfant à défi. Puis là, on dirait que c'est la première fois que je fais face à un type d'enfant que j'étais avec mon neveu, tu sais. Fait que c'est... j'essaie de bien faire, puis en même temps, c'est tellement fou comment mes réflexes, c'est ce que moi j'ai vécu, tu sais.
Ouais, puis je pense que c'est le plus difficile dans permettre à quelqu'un quelque chose que je me permets pas à moi-même ou qu'on m'a pas permis. C'est-à-dire, ouais, être très verbal par rapport à nos émotions, même des fois, tu sais, reprocher à notre parent, là, ça c'est quelque chose qui est très différent de qu'est-ce que nous on a vécu comme enfant, que Arnaud va me dire là, tu sais, t'es pas respectueux avec moi, puis il y a des moments où c'est vrai là que je suis pas respectueuse avec lui là, tu sais, mais c'est des choses qui sont très challengeantes parce que soit que nous on n'a pas eu le droit de le faire quand on était enfant, mais aussi que comme adulte maintenant, on se permet même pas de le faire parce que c'est tellement ancré en nous qu'on se permet pas d'être complètement transparent par rapport à nos émotions. Fait que de voir un enfant que lui, on lui permet, puis que lui, il a le droit de dire quand il est fâché. Je veux juste faire une nuance, qu'il n'a pas le droit de frapper, il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit de dire des gros mots, là, tout ça est très encadré, mais il a le droit de ressentir de la colère. Je pense que c'est très challengeant de laisser faire quelque chose que nous, on se permet pas ou qu'on n'a pas été permis.
Ah oui, complètement, tu sais, puis en étant conscient que c'est pas la bonne chose, des fois, on la reproduit sans... parce que c'est le seul outil qu'on a, tu sais. Mm-hmm. Puis là, on dirait que moi, ça a été beaucoup ça, tu sais, mon rapport surtout avec toi, tu sais, parce que comme c'est avec toi que je peux gérer comment on va faire pour gérer ces situations-là, tu sais, c'est pas avec mon neveu que je vais gérer ces situations-là, tu sais, puis que je vais dire comme, la première fois que c'est une crise, comment qu'on fait pour que ça se passe bien, tu sais. Tu sais, je me rappelle qu'il y a quand même eu un point marquant dans notre relation entre toi et moi, tu sais, où justement mon réflexe était, t'es meilleur que moi, c'est ton enfant, fais-le, tu sais, comme fais la bonne affaire parce que moi je la connais pas, c'est toi qui as les connaissances, c'est toi qui connais ses réflexes, c'est toi qui, tu sais, fait que j'étais comme occupe-toi de ça vu que c'est toi qui es la meilleure là-dedans. Puis là, il y a eu un moment, tu sais, je me rappelle où tu m'as dit comme c'est pas de même que je veux que ça marche, tu sais, je veux que toi aussi tu sois capable d'intervenir, puis c'est pas grave que tu te trompes, c'est pas grave que tu te laisses aller, moi aussi j'en fais des erreurs, ça fait partie du processus. Puis là, j'ai vraiment fait comme une espèce de 360 dans ma tête, puis je me suis permis de faire des interventions, même si je savais qu'il était pas 100% exact ou comme selon le protocole du bon développement de l'enfant. J'ai fait, OK, ben gars, c'est mon intervention. Elle vient avec ses erreurs, elle vient avec ses bons côtés, mais aussi ce que je maîtrise.
On a toujours la chance de racheter quand justement on se rend compte, puis on peut retourner vers l'enfant de... « Hey, j'aurais pas dû dire ça. Je me sens pas à l'aise avec la façon que je t'ai parlé. Comment toi, tu l'as reçu? » Puis, tu sais, il est rendu à 6 ans, là, il est plus capable de comprendre, mais c'est quelque chose que je fais depuis le début. Tu sais, j'en ai eu plein des moments où j'ai crié après, là, tu sais, à un moment donné, ça rend fou de pas dormir.
Ah oui.
C'est vraiment... Puis je pense que moi, j'ai passé par un burn-out, là. Je pense que ça ajoute une composante. Tu sais, quand tu sens maman épuisée, puis là, toi, t'as une espèce d'instinct de protection envers moi qui est clairement...
Ouais.
Ça marche pas, sa façon de faire. C'est pas ça que tu te dis, là, mais c'est-à-dire, clairement, être en grande difficulté, là. Parce que même si je sens que je fais la bonne chose, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis c'est pas une méthode miracle. C'est juste que j'essaie de faire un enfant qui va pas passer sa vie en thérapie, tu sais.
Oui, puis pour dire aux gens qui nous écoutent aussi, tu sais, c'est exactement ça. C'est que moi, mes réflexes sont beaucoup dans « Hey, on fait pas ça. Arrête, qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, c'est beaucoup dans chicaner l'enfant. Tandis que toi, c'est accompagner l'enfant qui est en crise, qui hurle. Puis c'est comme du réconfort, puis de la douceur. Puis de voir, tu sais, en tout cas, moi, il y a comme cette image-là de vouloir lancer un jouet sur la personne où, genre, j'ai pas été capable de pas réagir même physiquement, là, tu sais, à cette intervention-là. Puis j'ai eu le goût de me lever, faire comme là, ça va faire, tu sais. Puis je t'ai vu me regarder, faire comme, ça sert à rien, tu sais. Comme, c'est quoi la meilleure, mettons qu'on parle, là, tu sais, la meilleure technique pour intervenir avec un enfant en crise, c'est quoi, mettons?
Ça serait accueillir l'émotion, parce que l'émotion est toujours valide. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est challengeant pour toi. Accueillir l'émotion, parce que peu importe si elle est justifiée ou pas, tu as le droit de te sentir comme ça. Puis souvent, je vais mettre des mots sur qu'est-ce qui s'est passé. Toi, ça t'a frustré que telle chose arrive. Puis même s'il n'y avait pas d'affaire à se sentir frustré, parce que c'était normal là, qu'est-ce qui est arrivé, toi, ça t'a frustré. Ensuite, arrêter le comportement. Fait que physiquement, je vais mettre ma limite. T'sais, si justement, ouais. Il est en train de pogner une slug sur son frère, ben il va avoir ma main pour l'arrêter. Je vais l'amener dans une autre pièce. Je vais m'assurer que le comportement s'arrête. Je vais mettre ma limite. Puis ben après ça, juste attendre que la tempête descende.
Puis c'est quoi ta réaction quand moi j'intervenais, mais pas de cette façon-là?
Ben j'ai tendance à beaucoup t'accueillir là-dedans, toi aussi. Parce que, comme je te dis, c'est des dynamiques qui sont très complexes. Puis c'est vrai pour tous les intervenants que je vois, puis c'est vrai pour tous les parents. Tu sais, la maman du petit gars au Jean Coutu qui fait le bacon à terre parce qu'il voulait un jouet, j'ai cette même vague d'empathie pour cette maman-là qui a pas plus le goût que ça se passe, là, tu sais. Puis toi, ouais. Ce que je vois, mettons que tu es en train d'intervenir avec des yeux fâchés, c'est premièrement qu'est-ce que tu as vécu comme enfant, puis aussi ton malaise par rapport à ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut adresser après ça en discussion, mais effectivement, si je sens que ton intervention est vraiment inacceptable, je vais la mettre, la limite, puis ça m'est déjà arrivé de la mettre, parce que je veux que mon enfant sente que je suis là pour le protéger puis que je suis dans son équipe. Puis ça va être tout le temps prioritaire sur toutes mes autres relations avec les gens. Quitte à te froisser pour là, on pourra réparer plus tard. Mais effectivement, si je sens que c'est vraiment inacceptable, ça veut pas dire un petit peu à côté, là, tu sais...
Non, mais là, juste dire aux gens, là, j'ai pas été un malade mental, tu sais, comme c'est pas avec moi là que t'as dû mettre la limite puis arrêter. J'ai comme
tu sais, c'est arrivé. J'ai quand même la notion de la violence un peu large, là. C'est-à-dire, pour moi, les violences ordinaires qu'on appelle sont quand même importantes, là. C'est de dénigrer, de dire, ben d'abord, je t'inviterai plus chez nous si tu fais la crise. Tu sais. Il y a quand même des choses qui sont pas de la violence physique, tu sais, in your face.
Non, ça, mais de la manipulation émotive, là, tu sais, comme des affaires que tu fais comme, si tu fais des crises, on ne retournera plus au chalet, là, tu sais, puis là, tu fais comme, on veut que ça se passe bien, puis là, tu fais, ah non, c'est ça, là.
C'est ça.
Puis il a fait du chantage.
Là, ça arrive que je vais mettre la limite de genre, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ça, il va falloir qu'on en discute plus tard, puis tout à l'heure. Est-ce que quand tu me regardes intervenir, est-ce que tu es capable d'identifier des choses qui sont les plus des triggers pour toi quand tu me vois intervenir?
Qui sont des triggers pour moi, pas tant que ça, mais des fois j'ai eu beaucoup ça avec l'opposition. C'est un enfant, mettons, qui va réinventer la réalité pour son avantage, mettons, on joue à n'importe quoi, au mini-hockey, mettons, ensemble, puis que finalement, il décide que, ah non, mais j'ai fait un but tantôt. T'es comme, non, t'as pas fait de but. Oui, j'ai fait un but. Puis là, on voit que ça peut s'en aller vers une crise si, parce que ça se passe pas exactement comme il voudrait. Là, il a clairement inventé quelque chose. Puis là, des fois, moi, je te voyais faire comme, OK, ben, gars, si tu penses ça, c'est toi qui penses ça. Puis là, il y avait beaucoup un questionnement à moi, puis je pense que c'est ça là, qui me triggerait. Je suis comme, là, l'enfant, vas-tu penser que c'est ça en réalité? Là? Il peut comme inventer des affaires, puis il y a personne qui a dit non, c'est pas ça qui est arrivé, puis c'est pas même ça marche la vie, là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait qu'on dirait que moi, mon instinct me disait, non, fais-y comprendre que il peut pas faire ça, là, inventer des affaires, puis qu'on va se plier à ses demandes, puis à ce qu'il a inventé.
Ouais, mais la suite de cette intervention-là, quand même, c'est d'accueillir, oui, toi, tu penses ça. Par contre, je pense pas que ça va changer l'outcome, là. Ben, corrige-moi si j'avais fait ça à ce moment-là, là, je suis vraiment pas parfaite, mais j'ai tendance à pas changer la situation, mais accueillir beaucoup comment tu te sens. Toi, tu l'as perçu comme ça. C'est vrai que toi, tu pensais, ah, on s'est peut-être mal compris. Mais il faut se dire qu'on est une famille d'opposants, hein? C'est-à-dire notre père est opposant, t'es un opposant, je suis une opposante aussi. On est des gens
qui aiment le sport de s'ostiner.
Oui. Fait que je pense que quand Arnaud s'oppose, puis ça a été toute une réalisation pour moi de réaliser que ça prend deux personnes pour s'opposer. Ça prend deux personnes ouais. pour argumenter. Un enfant peut pas argumenter tout seul. Donc, mon enfant est argumentateur parce que je suis argumentatrice avec. Et ce défi-là de se la fermer est vraiment majeur. Pour moi, puis pour toi aussi, je pense.
Ah oui, complètement. Tu sais, c'est parce que des fois, tu sais, c'est ça, puis j'ai l'impression que c'est ça que l'enfant cherche aussi, tu sais. Il est comme, je vais te dire n'importe quoi, mais on va s'ostiner ensemble, puis je vais pouvoir... Puis là, toi, t'es tellement convaincu que t'es comme... Hey, c'est moi l'adulte. Je le sais, c'est quoi la vérité. Je t'ai dit. Peux-tu me croire? Peux-tu me croire quand je te dis que c'est pas ça qui est arrivé? Ou genre dans un jeu où non, la carte que t'as mis tantôt, c'était pas ça. Oui, c'était ça. C'est ça la carte que j'ai mis. Arrête de faire semblant que c'est pas ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Je suis l'adulte, je le sais.
Ouais.
Puis là, faut que tu fasses comme, OK, mais il est pas là. En tout cas, c'est sûr que je comprends, mais peut-être que c'est pas ça, là, tu sais, c'est comme.
C'est-à-dire qu'il est dans l'opposition pour l'opposition, pas pour son point. Alors que toi, t'es dans l'opposition pour ton point. Lui, il est dans l'opposition pour le jeu. Ben, je veux pas dire que c'est un jeu parce que c'est pas agréable, mais ça reste une dynamique, une danse, plus une danse. Il est dans la danse de l'opposition. Puis souvent, ça va être tellement un réflexe, ça va être tellement comme, qu'il va dire n'importe quoi, et ça ne fait
pas de
sens. Quand il était petit, ben, les mots se suivaient plus, là. Il avait 3 ans, puis il argumentait, puis tu le vois, là, ce n'est pas une phrase. Ce que tu as dit ne fait aucun sens. Il n'a pas, tu sais, il n'a pas cette aisance avec les mots que nous, on a. Puis je pense que toi, ben, en fait, les deux, on est des bons argumentateurs. On aime ça argumenter. On aime ça faire valoir notre point puis s'exprimer clairement. Fait que lui, il vient chercher en nous cette espèce de besoin d'avoir raison. Mais ça diffuse tellement de juste dire, oui, toi, tu penses que c'était pas cette carte-là. J'ai appris récemment aussi à dire on n'a pas la même version de ça, hein? Ou ton prof elle avait pas la même version, mais ça c'est apposer au lieu d'opposer, qui est un concept.
Mais c'est ça que tu m'avais dit aussi. un truc que tu m'avais donné que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est sur ma prof, il y a que je ne lui donne jamais raison. Puis c'est là que ça a fait la différence pour moi, puis que ça m'a comme ouvert le chemin à pouvoir arrêter l'ostination puis pas être dans la confrontation. C'est quand tu me dis, tu remarques que je vais dire, si c'est ça que tu penses, toi, parfait. T'sais, puis c'est comme, c'est pas de dire, oui, t'as raison, c'est ça qui est arrivé. C'est de faire, gars, si tu veux inventer des affaires, invente-en, mais moi, je sais que c'est pas ça qui est arrivé, mais si toi, tu penses ça, c'est comme, tu fais ce que tu veux. C'était comme des tournures de phrases qui justement disaient pas, OK, j'accepte qu'il me mène en bateau, tu sais.
Ouais, c'est la différence entre accepter comme l'idée ou accepter l'émotion derrière. Tu sais, c'est comme accueillir ce que tu vois, ce que tu vis, mais pas changer le monde pour ça, tu sais. C'est vrai dans plein d'autres choses, tu sais, l'enfant qui est rigide puis qui pour lui c'est tellement important d'avoir le bol bleu, ben sûrement s'il est pas disponible, là, tu l'auras pas le bol bleu là. Mais je peux t'accueillir dans ta déception, je peux t'accueillir dans ta frustration. Tu voulais vraiment le bol bleu, mais là, si t'as faim, tes céréales sont dans le bol rouge. Si t'as pas faim, c'est correct, c'est ta décision.
Puis toi, as-tu trouvé ça dur de de mettons avoir ce chemin-là de communication puis nous montrer comment on allait faire ensemble pour moi mon réflexe c'était beaucoup de comme je fais confiance à tes valeurs et pas aux miennes, tu sais, le chemin entre je dois mettre les gens de ma famille dans mon équipe face à l'éducation de mon enfant, tu sais, peux-tu trouver ça dur?
Mais on a tellement une famille ouverte où est-ce qu'on se parle de tout que même avant d'avoir des enfants, je vous parlais de mes positions sur l'éducation, puis vous aviez une idée quand même. Puis on a eu des gros talks là, pendant que j'étais enceinte, là, tu sais, sur plein de sujets là, par rapport à mon bébé à venir. Puis c'est quelque chose que j'ai installé très tôt de, tu sais, de comment je voyais l'éducation. Puis j'ai commencé à semer des graines très tôt, mais c'est ça, on a vraiment une famille où est-ce qu'on se parle de tout en profondeur, puis on est quand même très respectueux des valeurs de chacun. Je pense que ça a été facilitant d'être la première. Parce que si j'avais été, mettons, la dernière de famille, puis que mes enfants auraient été les derniers après que toi, tu as eu des enfants, puis que notre soeur a eu des enfants aussi, peut-être que la dynamique aurait été différente. Mais là, vu que je suis la première, puis bon, mais tout ce qu'il y avait à vivre, ben, c'est-à-dire pas tout, là, mais beaucoup des défis à vivre, tu sais, j'ai eu un prématuré, après ça, c'est un enfant qui dormait pas, c'est un enfant qui était allaité à long terme, tu sais, je suis très alternative quand même dans mes décisions, puis tout ce que tu penses, ah, ben, tu sais, c'est comme ça qu'on élève des enfants, mais probablement que je fais le contraire, là, tu sais, je suis un peu de même dans la vie, là.
Puis mais tu sais, je pense à des gens aussi qui ont pas peut-être la facilité à communiquer comme nous on l'a, tu sais, je pense qu'on est beaucoup dans l'ouverture, tu sais, puis je trouve ça plate justement pour des familles qui ont peut-être peur de dire à leurs proches comment agir ou comment ils devraient intervenir, puis tu sais, qui ont pas ce canal de communication là, tu sais. Pour des gens qui ont pas la communication facile, comment tu fais pour montrer à tes proches comment intervenir auprès de ton enfant, tu sais?
Je suis pas sûre que dans un contexte où la relation est pas comme nous, où la relation est moins optimale, où on peut pas tant parler de ces affaires-là sans créer des méga frettes, où est-ce que, ben, peut-être que là, on va demander plus une distance. Puis tu sais, si aller chez les grands-parents à tous les dimanches, puis vivre des affaires dégueulasses à tous les dimanches, peut-être c'est pas notre rythme. Peut-être qu'on va juste vouloir prendre une distance. Tu sais, des fois, les relations permettent pas de grandir ensemble. Fait que peut-être qu'on est mieux de juste, tu sais, mettre plus une distance qu'une proximité, comme moi j'ai choisi de faire dans notre famille, parce que c'était propice à, tu sais, on l'a cette ouverture-là pour aller ensemble là-dedans. Mais effectivement, si je l'avais pas, ou avec les gens avec qui je l'ai moins, ben il s'agit plus de mettre une distance, de dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais ce que j'ai besoin, c'est du support dans mes difficultés, c'est pas des conseils, c'est pas de me faire blâmer, tu sais, plus
une... Non, c'est ça, mais en fait, c'est ça que je voulais dire, tu sais, mettons, comme les deux extrêmes, entre l'extrême communication puis comme, je dois prendre une distance avec toi parce que je suis pas capable de t'exprimer mes points, mais même comment approcher quelqu'un, même si la communication est pas optimale, mais comme est moyenne, okay, tu sais, dans la moyenne, c'est de faire le premier pas, tu sais, comme... Je me rappelle, tu sais, ça a quand même été dur, là, tu sais, le premier pas, il y a eu des soirées où, comme, t'as dû venir à moi, tu sais, puis que, genre, je sentais que des fois, le vase était plein, tu sais, puis là, je fais comme, OK, c'est quoi les meilleurs premiers pas pour aller vers quelqu'un pour y exprimer la participation idéale pour le parent, tu sais.
Ouais, mais c'est vraiment difficile, puis je pense que toutes les relations sont différentes, puis pour avoir une façon différente, puis chaque personne, la façon qu'elle est capable de s'exprimer aussi. Tu sais, moi, quand j'aborde quelque chose de difficile qui va me rendre émotive, je pense, j'ai tendance à beaucoup écrire. Il y a des fois où je vais envoyer un message. Ça m'est déjà arrivé aussi d'envoyer un message. C'est plus facile pour moi à l'écrit, c'est moins émotif. Mais ça m'est déjà aussi arrivé d'écrire mes choses juste pour placer mes mots puis le lire plusieurs fois pour descendre mon émotivité. Pour ensuite, quand je le lis au téléphone... souvent de mémoire, parce que je l'ai comme lu 4-5 fois dans mon truc, mais ça va sortir avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de détachement, là, qui est plus pas un détachement, mais c'est-à-dire je vais pas brailler pendant que je le dis, là, parce que c'est mon genre, là. Je suis une personne super émotive qui peut... moins maintenant, je dirais, là, mais au début, surtout que tu sais, quand t'es pas en burn-out puis en dépression, c'est pas tout le temps le meilleur timing pour être solide.
Faut que tu gardes le fort tout le temps.
Ouais. je pense que écrire puis ensuite comme nommer nos attentes. Bien sûr, le message là, c'est tout le temps, c'est un cliché, mais c'est tout le temps gagnant là, de parler de soi au lieu d'accuser. Je pense que c'est des stratégies qui peuvent être ouais. lentes pour ouvrir cette discussion là, mais je souhaite que tout le monde soit capable de l'avoir, mais je suis pas sûre que c'est vraiment réaliste de penser que tout le monde peut avoir. C'est pas vrai.
Non, mais déjà d'avoir des outils là, tu sais. Je pense que c'est oui. tout le temps ça. C'est j'ai l'impression que je vois un peu la vie comme ça, là, tu sais, même dans peu importe ce que tu entreprends, tu sais, c'est que au début, t'as un coffre à outils, puis il n'y a rien dedans, puis plus t'avances, puis t'es comme, ah, ben, gars, j'ai développé le marteau, là, il est dans ton coffre à outils, puis hein, j'ai développé le tournevis, puis mais t'es comme, ok, ben, j'ai un coffre à outils plus gros, puis je suis capable de faire face à plusieurs situations, tu sais, mais.
Ouais.
C'est ça.
Mais écoute, je regarde l'heure. Merci beaucoup d'avoir participé. Au podcast, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris le temps. Ça va être sûrement mon épisode qui aura le plus de views.
Alors, je sais pas, peut-être pas.
Fait que, ben, merci d'avoir partagé ton expérience, puis on se reparle bientôt.
Ben, ça fait super plaisir, je t'aime aussi, et bravo pour ton délicieux podcast.
Bye.